Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce moment exceptionnel. Comme vous le savez, après les élections présidentielles, ou plutôt après l'élection présidentielle et la réélection d'Emmanuel Macron, place maintenant aux élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Ce sera une nouvelle assemblée. Et quelle majorité pour le président ? L'opposition sera-t-elle plus forte ? Est-ce que les députés sortants auront également cette capacité à convaincre les électeurs de donner une majorité au président pour aller au bout de son projet, ou bien on assistera à un duel un petit peu différent de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant dans les élections françaises. Il se trouve que dans la logique des choses, comme vous l'avez sans doute remarqué depuis longtemps, lorsque les Français choisissent un président, la logique voudrait que ce dernier obtienne une majorité pour tout simplement mettre en place ses réformes. L'invité du jour est issu de la 4e circonscription de Seine-Maritime. Elle est députée sortante. C'est Sarah Silla, qui a connu un premier mandat qui est sur le point de se terminer, puisque je vous rappelle quand même que tant qu'il n'y a pas cette élection, tant qu'il n'y a pas la dissolution, les députés sortants doivent travailler jusqu'au bout. Sarah Silla, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de RFM.
Bonjour, et je suis présente avec grand plaisir.
Bon, femme de terrain, on se dit des fois, mais où est Sarah ?
Moi, je rappelle que lorsque j'ai fait ma profession de foi en 2017, j'avais dit que je serais une députée de terrain, que je serais une députée travailleuse, accessible, que je travaillerais notamment pour l'égalité des chances, la sécurité, le pouvoir d'achat. Bah, je peux dire que je l'ai fait. Je l'ai fait. C'est quoi une députée de terrain ? C'est une députée qui, avant la crise des Gilets jaunes, a fait partie des quelques députés qui ont dit au gouvernement « non ». Pas de hausse du carburant, parce que j'ai vu ce qui se passait. Et il faut être capable de revenir en arrière et d'écouter les gens. Donc si je n'avais pas été sur le terrain, je ne l'aurais pas vu. Une députée de terrain pour les quartiers, c'est une députée qui, dans le cadre du groupe de travail politique de la ville à l'Assemblée nationale, permet à la ville d'Elbeuf de bénéficier d'une cité éducative. Là, ça a été décidé il y a au moins 2 mois, qui va permettre à tous les acteurs, enseignants, associations, police, éducateurs notamment, de travailler ensemble. Et c'est 235 000 euros par an pendant 3 ans pour la ville d'Elbeuf. Une députée de terrain, c'est quoi ? C'est une députée, parce que moi j'étais co-référente pour la Normandie dans le cadre du Grenelle des violences conjugales, avec un groupe de députés, justement pour la loi, ensuite aller voir ce qui se passait sur notre terrain. J'ai fait venir quelques députés qui sont venus des quatre coins de la France, où on a passé une journée entière à Elbeuf, au centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, où j'ai travaillé depuis plusieurs années avec le docteur Brousse pour montrer ce que le docteur Brousse faisait. C'est quoi son unité ? Une unité mobile qui rassemble donc médecins, psychologues, avocats, police, assistante sociale pour une prise en charge complète de la victime. Et donc on a fait toute une journée de travail où les députés sont venus à l'hôpital. Nous sommes allés ensuite à Elbeuf l'après-midi faire une réunion avec l'ensemble des acteurs. J'ai remonté ce que l'hôpital faisait. Il y a une restitution à l'Assemblée nationale. La police était présente, une avocate était présente, le docteur Brousse qui est à la tête de l'unité était présent. Et cette action a été retranscrite dans la loi. Et donc 9 maisons des femmes ont été créées, et dont une à Elbeuf, et j'en suis vraiment très fière. C'est ça une députée de terrain. C'est une députée de terrain, c'est quoi encore ? Parce que nous avons des quartiers dans cette 4e circonscription de la Seine-Maritime, mais nous avons aussi des communes rurales. Et grâce à moi, une maison France Service a été créée à Sahure. Une maison France Service, c'est permettre aux communes rurales de bénéficier des services publics. Donc impôts, Pôle emploi, CAF, par exemple. Et je pourrais continuer. Donc moi, j'ai décidé depuis les 5 ans de ne pas rester dans les dorures de l'Assemblée nationale. Donc j'ai passé beaucoup plus de temps en circonscription. Et je rappelle que je suis membre de la Commission des Affaires étrangères. Nous sommes dans le domaine du président de la République. Et toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, on auditionne des ambassadeurs, des ministres étrangers, des organisations internationales. Nous avons travaillé pendant 3 ans sur une grande loi dont je suis très fière, une loi historique qui est la loi de lutte contre les inégalités mondiales, où on change de logiciel, notamment avec l'Afrique, pour dire fini le paternalisme. Traitons les États africains, les populations africaines d'égal à égal. Grâce à mon action, le rôle des sociétés civiles a été reconnu dans la loi. On a voté, dans la loi, il y a une disposition notamment sur les biens mal acquis. où les chefs d'État profitent, et ben ça a commencé, hein, il y a eu des saisies, et ça oui. retourne aux populations. Et je pense aussi, notamment lorsque je dis député de terrain...
Parce qu'il y a eu à une époque cette fameuse France-Afrique qui était un peu le domaine réservé d'une certaine élite et qui faisait ce qu'elle voulait de ces biens mal acquis, voilà, par exemple ici en France.
Ouais, hein, voilà. Il faut en finir avec cela. Et lorsque je vois que ça fait 2 ans que je me bats pour les transferts d'argent, au moment de la campagne présidentielle,
les fameuses Western Union, les monogrammes, etc.
Et rappelle que Génération Identitaire, oui. l'extrême droite est venue m'intimider à ma permanence avec des flammes, avec je suis députée de la République française, retourne en Afrique, elle aide les Africains, n'importe quoi. Ces transferts d'argent, ils servent à quoi? Rappelons-le. Et moi, je suis très fière d'être française, mais aussi je suis très fière de mes origines, de mon pays d'origine, le Sénégal. C'est soit une aide aux proches, ce qui est important, parce que j'avais vu pendant la Covid-19 que ça baissait, parce que les premières lignes étaient qui? Les premières lignes, c'était qui? Les médecins. Le premier médecin, il était d'origine africaine, il était d'origine malgache. Donc ça sert premièrement à une aide aux proches, et deuxièmement, ça sert à la croissance des économies africaines. Et si je prends l'exemple du Sénégal, on a un dispositif qui s'appelle le plan d'appui aux initiatives de développement de développement. C'est quoi? C'est par exemple, on veut créer un hôpital. Comment c'est financé? Il y a la France qui participe, l'Europe, et un tiers, c'est l'argent de la société civile qui envoie. Et donc moi, ça fait 2 ans que je me bats là-dessus. Pendant la loi de finances, j'ai fait ce qu'on appelle des amendements pour changer la loi. Ça n'a pas été accepté. J'ai fait une proposition de loi qui n'est pas encore passée. Dans la loi inégalité mondiale, j'ai fait voter 2 amendements pour demander une étude sur le coût des transferts et aussi mettre en place un dispositif qui s'appelle la bibancarisation, qui permettrait d'avoir un compte en France et par exemple un compte en Tunisie. J'en suis arrivé là. Le président de la République a dit « Syrah a raison ». Donc si vous voulez que j'avance, que je puisse continuer sur ce combat, votez pour Syrah Sylla. Votez pour Syrah Sylla.
Et Syrah, j'ai remarqué également une chose, c'est que peut-être qu'on a du mal à comprendre ce qu'est l'Afrique, ce qu'est la société africaine, ce qu'est, passe-moi l'expression, la tribu. Ces fameux transferts ont toujours existé. Pourquoi on veut créer une polémique sur cet argent en sachant que lorsque une personne d'origine du Sénégal ou du Cameroun ou du Tchad, par exemple, envoie, ce n'est pas pour une, c'est pour nourrir une famille entière. Est-ce qu'on se rend compte également que cet argent a été gagné de façon honnête, parce que ce sont des gens qui travaillent, qui envoient cet argent? Pourquoi une polémique autour de ça?
Bah, ceux qui ont fait cette polémique veulent diviser les Français, ouais. considèrent que certains Français comme moi, ou même d'autres qui sont nés en France mais qui n'ont pas la nationalité française, ne méritent pas d'être Français. Vous l'avez rappelé, l'argent, c'est leur argent, il a été gagné. Il a été gagné, donc c'est une polémique. En fait, pour moi, ça veut dire qu'ils ne comprennent rien à la relation entre la France et l'Afrique. Ils ne comprennent rien à cette génération qui vient de parents africains. Ils veulent, ces gens-là, ils veulent nous dire « Vous êtes français, vous oubliez d'où vous venez ». Mais si on ne sait pas d'où on vient, comment on peut avancer dans la vie? Ces gens n'ont rien compris. Et c'est pour ça que ces gens ne peuvent pas diriger le pays. Parce que la France n'est pas un pays qui vit en Afrique. Le destin de la France... comme de l'Afrique, sont inextricablement liés. Je rappelle qu'il y a 15 kilomètres. 15 kilomètres séparent la France du continent africain. Donc ne votez pas pour des gens qui vous stigmatisent. Ne votez pas pour des gens qui sont pour la division. Ne votez pas pour des gens qui disent que certains Français sont des Français de seconde zone, voire de troisième zone, parce qu'eux vont nous mener vers le chaos.
La France d'aujourd'hui est une France... multiculturel, oui. multicolore, mais quand on dit qu'on est français, ça veut dire que, je vous prends n'importe quel cas, Syrah aujourd'hui, quelqu'un qui est né en France, de parents d'origine étrangère. Il est né en France, il a grandi en France, il n'a connu que la France. On va lui dire, rentre chez toi, mais chez lui, c'est ici.
On est d'accord, mais c'est ce que je vous dis, certains trient les Français. Ouais. Trient les Français. Il y a le Français de première zone, le Français de seconde zone, le Français de troisième zone. Mais nous sommes bel et bien Français. Ouais. Et moi, je suis fier, comme d'autres députés, de montrer ce visage diversifié de la France. Et J'invite vraiment les jeunes et les moins jeunes d'origine étrangère, les jeunes et les moins jeunes qui viennent des quartiers, les jeunes et les moins jeunes qui viennent des communes rurales, les catégories socio-professionnelles différentes, à s'engager en politique. Parce que la politique ne se résume pas au diplôme. La politique, c'est la vraie vie. Et tant que, notamment l'Assemblée nationale de la France, ne sera pas représentée dans toute sa diversité, on n'y arrivera pas. Hein, parce qu'on ne peut pas voter correctement des lois, mettre en place de dispositifs si on ne connaît pas le terrain. Donc engagez-vous, nous sommes là et nous sommes pleinement légitimes. Moi, je l'ai entendu des fois à l'Assemblée nationale, hein. T'es déjà députée, sois contente. Comment je devrais être contente? Je ne suis pas née en 2017. Hein. Je rappelle que je travaille depuis que j'ai 16 ans. Mon premier boulot, je ramassais des poubelles. Pendant la fac, j'ai toujours travaillé. J'ai travaillé chez Quick. J'étais assistante d'éducation. Je suis devenue avocate et j'ai ma place entière. Les Français m'ont élue. Les Français m'ont élu, il me semble. Donc battez-vous, soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers de vos origines. C'est une richesse. C'est vrai, moi, lorsque j'étais petite, c'est difficile, hein, parce qu'il y a la culture
française,
il y a la culture sénégalaise, sénégalaise, c'est difficile d'arbitrer. Et plus on grandit, plus on se rend compte que c'est une richesse, parce que nous sommes ouverts. Donc soyez fiers de ce que vous êtes.
C'était le coup de... On va dire... Le coup de génie qu'a réussi Emmanuel Macron lorsqu'il a décidé de placer beaucoup de candidats issus de la diversité dans la bataille des élections. Et d'ailleurs, beaucoup sont issus de cette minorité très visible, qu'on disait à l'époque invisible, mais très visible, que vous soyez d'origine sénégalaise ou algérienne ou marocaine. Aujourd'hui, vous êtes à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est pas là que Emmanuel Macron a réussi son coup de génie par rapport aux candidatures antérieures?
Emmanuel Macron a compris que nous sommes à un basculement. Et la société française, je suis désolée, mais nous l'avons dit, elle est très diversifiée. Je vais prendre quelques illustrations. Emmanuel Macron a fait en novembre 2017 un discours qui s'appelle le discours de Ouagadougou. Où ce discours, il dit qu'il faut un changement de paradigme dans la relation Afrique-France et que la France a une part d'Afrique en elle. Ça a choqué beaucoup de gens lorsque le président de la République a dit ça, mais oui, la France a une part d'Afrique en elle et elle doit le reconnaître. Lorsqu'Emmanuel Macron a dit que les soldats africains de l'armée française n'ont pas été reconnus, rendons-leur la gloire qu'ils méritent. Et ben moi, je suis allée partout en France convaincre des maires, travailler avec des préfets pour nommer noms de soldats africains à des rues. On l'a fait à Rouen, j'ai sollicité Nicolas Mayer au Signal, on l'a fait, je l'ai fait à Lyon, parce que c'est ça, reconnaître. Si on ne reconnaît pas, comment voulez-vous que aussi des gens se sentent pleinement français? Lorsqu'Emmanuel Macron a dit on met en place une saison Africa 2020, parce qu'il faut déconstruire les imaginaires. Ouais. Certains restent enlisés dans un passé post-colonialiste, mais faisons découvrir la culture africaine, les cultures africaines aux Français, mais ce ne sont pas les Français qui vont raconter, ce sont les Africains. Avec la Covid, ça a été un peu diminué. Ouais, mais ça a permis quoi? Si je prends l'exemple d'une formidable personne qui s'appelle Joachim Crochemore, qui habite sur notre territoire, il adore le Nigeria. Et le Yoruba, c'est une langue qu'il parle. Et au Nigeria, il fait chanter les enfants sur des rythmes français, donc il valorise la francophonie. Et notamment à Wassel, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il fait chanter les enfants sur des rythmes afro-cubains en Yoruba. Il y a eu un reportage ensuite. Les enfants ont dit ça. L'Afrique, ce n'est pas que la pauvreté. Ah, l'Afrique, ce n'est pas que la guerre. Donc voilà, déconstruire les imaginaires. Et ça commence dès le plus jeune âge. Donc ça, Emmanuel Macron l'a compris et le met en place. Lorsqu'Emmanuel Macron dit il faut un partenariat d'égal à égal avec l'Afrique, co-construit avec les sociétés civiles en tête, donc vous et moi, par exemple, parce que nous sommes un pont, je suis un pont entre la France et l'Afrique, lui a compris que, en fait, c'est un avantage pour la France d'avoir des populations issues notamment des pays d'Afrique. C'est parce que la France ne pourra rien faire toute seule. Hein. Toute seule, la France toute seule, ainsi que Jean-Luc Mélenchon le prône, par exemple, avec la sortie de l'OTAN, c'est pas possible. On le voit avec la guerre en Ukraine. Ouais.
Très bien, Sierra Silla, on arrive à la fin de cette première partie. On va enchaîner rapidement. Restez à l'écoute, on se retrouve dans quelques instants.